Mais ce n'est pas tant qu'il faisait une liste pour dire oh, c'est dur la vie chrétienne. C'est que dans toute cette liste qu'il expose à ses frères et sœurs, eh bien, il dit mais il y a une réponse à ça. Et c'est un peu le thème de ce message. Et encore ce matin, ça m'a servi à oser me présenter devant vous, chanter ou parler. Ce verset, vous le connaissez, c'est de 2 Corinthiens 12:9 qui dit ma grâce te suffit. Parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors c'est un peu ça, le point de départ de ce cantique, c'est cette liste et cette réponse que le Seigneur apporte à chaque fois. Par 5 fois j'ai reçu des miens 40 coups moins 1. Par 3 fois j'ai été battu. Une fois lapidé, par 3 fois pauvre naufragé, sous les flots de tous oubliés, dans les eaux sombres jour et nuit, mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Ma force s'accomplit dans la faiblesse, ma grâce te suffit. Toujours en peine et en travaux, j'ai fréquemment veillé. Je sais la faim, je sais la soif, souvent j'ai dû jeûner. Dans les cachots emprisonnés, souffrant de froid, de nudité, sans cesse assiégé de soucis, mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, ma force s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. J'ai vécu comme un voyageur d'innombrables dangers, en péril parmi les voleurs, si souvent outragé, sur tous les fleuves et par les mers, en ville et même les déserts, par des faux frères juifs ou gentils, mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, ma force s'accomplit dans la faiblesse, ma grâce te et pour ne jamais m'élever au-dessus de mes pères, un ange vient me souffleter et charde dans la chair. Par 3 fois, oui, j'ai supplié d'en être à jamais délivré. Dieu n'a pas exaucé mes cris, mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, ma force s'accomplit dans la faiblesse, ma grâce te
Alors, je ne sais pas si vous avez bien retenu quel est le titre du message d'aujourd'hui, parce que je pense que c'était moi-même, j'ai pas dû l'annoncer, ça a changé entre la dernière fois et aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien le thème de la musique dont on va parler. Bon, le Seigneur, il y a quelques années, pourtant j'ai pas de formation, mais le Seigneur m'a poussé à composer. C'était pas évident au début parce que n'ayant pas de formation et même pas de facilité à faire de la poésie, parce que c'est quand même de la poésie, les cantiques, je me voyais vraiment pas du tout qualifié pour ça. Et puis le Seigneur m'a poussé, pressé par ces versets justement, dans les psaumes en particulier, sur les cantiques nouveaux. Qu'il y ait des bons vieux cantiques, moi je me régale avec les cantiques des ailes de la foi, je me régale avec d'autres cantiques, mais quoi qu'il en soit, il y a toujours besoin d'un cantique nouveau. C'est dans les psaumes, cette pensée, il y a besoin, et même quand on prend nos bons vieux recueils, eux aussi ont eu une évolution. Il y a des cantiques d'une certaine époque, des psaumes, des chants moraves, des chants de Moody, des choses plus récentes, pas de Moody mais de Sankey, mais de l'époque de Moody, ou l'armée du salut. Donc même ce qu'on croit être un bloc, ça c'est les bons vieux cantiques, ils se sont étalés sur des centaines d'années et ont des styles très différents. Quand on étudie un peu la musique, ils ont des styles très différents. Donc je me disais, pourquoi ne pas en avoir des nouveaux? Ben, c'est ça que le Seigneur m'a montré. Et puis, bon, il a petit à petit, ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que j'écris des chants. On les chante en petit cercle à l'église. Aujourd'hui, ben, je ne suis toujours pas un spécialiste, mais je commence à avoir suffisamment réfléchi sur la question et creuser la Bible pour avoir des convictions que je voudrais vous partager ce matin. La musique, c'est un sujet qui touche directement au culte. Vous avez remarqué que c'était bien au moins la première, principale partie de ce culte, des cantiques accompagnés de musique. Ça nourrit, c'est une bénédiction pour la vie de l'Église et pour la vie spirituelle des croyants. Alors, je vais vous dire des choses que pour la plupart vous savez déjà. Je n'ai pas la prétention d'inventer ou de dire des choses nouvelles. Peut-être il y aura des petits points où vous direz « je ne vois pas exactement comme ça ». Pas de soucis, soyez patients. Il y aura d'autres points où vous direz « ah oui, là je suis d'accord, ça me convient ». Alors, pour commencer, le titre, la musique, bénédiction ou malédiction pour l'Église, c'est pas obligatoirement des extrêmes comme ça, bénédiction ou malédiction, mais quand même, il y a des bonnes choses que la musique apporte à l'Église, et des fois, certaines musiques apportent des choses pas très louables dans l'Église. Alors je vais prier, et puis ensuite on va déjà poser les fondamentaux de cette réponse. Seigneur, nous sommes rassemblés pour t'adorer, pour un culte, pour penser à toi, pour te louer, pour te chanter, et aussi pour t'écouter. Alors Seigneur, ce matin, que ce message, c'est vrai qu'il peut ressembler à de l'enseignement, soit aussi une exhortation, soit touche nos cœurs, nous avertisse, parce que c'est aussi ta pensée de nous avertir parfois quand on est sur une voie qui s'écarte un peu de toi. Nous voulons être attentifs, ne pas laisser tomber à terre une seule de tes paroles. Alors dispose-nous à comprendre, à entendre et à recevoir ce que tu as à nous dire dans tout ce qui sera dit ce matin. Et Seigneur, sois glorifié, et que la musique et que les cantiques continuent à te glorifier, encore aujourd'hui par des cantiques nouveaux et des cantiques anciens, et d'autres qui vont encore venir, suscités par ton esprit et par ta parole, en Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors d'où vient la musique? Il y a des camps qui disent « Ouh là là, la musique, attention !» La musique a pour origine d'abord Dieu. Job, chapitre 38, verset 4, je vous le lis. « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de l'intelligence. » Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Donc on voit que déjà à la création, les hommes n'étaient pas là, les anges étaient là, mais les anges chantaient, les étoiles, les anges chantaient déjà, donc la musique existait, la musique vient de Dieu. Mais un peu plus loin, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 12, « Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Ézéchiel 28 et un autre passage dans Ésaïe nous montrent l'ange chérubin, celui qui veillait même sur la présence de Dieu, c'est Satan, celui qui était parfait en beauté, qui avait tous les dons, toutes les qualités, le premier ange de la création, qui a été intègre un temps et puis qui s'est révolté contre Dieu. Et ce qu'on a relevé là, c'est pas simplement qu'il aimait les pierres précieuses, c'est qu'il avait des tambourins et des flûtes à son service. Donc Satan était assigné dans la présence de Dieu à la musique. On peut imaginer que Satan, quand il a été corrompu, quand le péché s'est trouvé en lui, son art, nécessairement, s'est transformé. Sa créativité s'est orientée autrement. Et lui qui était là pour la gloire de Dieu, ben, qui maintenant cherchait la gloire de lui-même, a commencé à composer à sa propre gloire. Alors, on voit, Dieu est à l'origine de la musique, mais Satan est un excellent compositeur. Et puis, d'où vient la musique au fond ? Est-ce que ça vient de notre cerveau ? C'est vrai qu'il y a des gens qui ont cette capacité intellectuelle, quand ils ont une formation, de penser la musique en termes de musique, en termes de notes, de rythme et tout ça. Et puis d'autres le font avec une certaine spontanéité, à l'oreille, comme on dit. Mais en fait, c'est pas leur oreille qui compose, c'est leur cœur. Ça vient comme ça, du cœur. Alors on se dit, ah mais si ça vient du cœur, c'est bon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand ça vient du cœur, c'est bon ? Il y a de tout, il y a de tout dans le cœur. Dans le cœur, tel que Jésus-Christ le décrit, Marc 7, 21, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, je ne vous fais pas toute la liste, et ça termine par l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc on voit qu'une production qui sort du cœur n'est pas nécessairement une bonne chose. Il peut y avoir vraiment des choses qui sortent de l'abondance de l'âme qui sont très mauvaises, orgueil, folie et toutes les perversions qui soient. Donc, on a une création, la musique qui vient de Dieu, qui a été corrompue par Satan, et nous, les humains, artistes pour certains, quand ils le sont, créateurs, eh bien, on peut y mettre de ce qu'il y a dans notre cœur. Donc, il peut en sortir, c'est ça la conclusion. La musique, il en sort, je pense, le meilleur et le pire. Voilà. Dans la Bible, on voit, lors de la délivrance de l'Égypte, le peuple a chanté. Quand on l'a lu tout à l'heure dans 1 Chronique 16, pour le culte, qu'est-ce que Dieu a institué ? Il a utilisé David, mais qu'est-ce que Dieu a institué ? La musique, le chant, le cantique dans le temple. Voilà, il y avait plein d'activités, mais il fallait toujours qu'il y ait de la musique. Et depuis des siècles, les chrétiens adorent dans les églises, et vous savez quoi, adoreront dans le ciel pour l'éternité. Et ils chanteront d'ailleurs un cantique nouveau. Sachez, rappelez-vous que Jésus lui-même a chanté, on voit ça pour Pâques, il a chanté des cantiques. Il a chanté des cantiques avec les disciples, donc Jésus chantait aussi. Et je vais vous dire, même il a chanté, peut-être pas avec des notes, mais il a chanté un cantique à la croix, même quand il était sur la croix. Le psaume 22, biche de l'aurore, c'est « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ben, c'était les paroles de la croix et c'était un psaume que Dieu avait composé, qu'il a interprété et vécu tout entier avec son corps même à cet instant-là. Oui, le chant est quelque chose que Dieu veut et est une source de bénédiction. Mais à la fois, il y a le veau d'or aussi. Le veau d'or, c'est le moment où Dieu donnait l'étape de la loi à Moïse sur la montagne. Au même moment, le peuple trouvait salon, s'ennuyait sans doute, s'est mis à se divertir, a fait un veau d'or, l'a appelé son Dieu, et avec ce veau d'or, il y avait des chants, bruyants d'ailleurs, des danses et de la débauche. Voilà, c'est ça qui est écrit dans le Nouveau Testament, quand ça fait référence à ce texte-là, ils se sont livrés à la débauche. Au lieu de la loi de sainteté de Dieu, les hommes se sont divertis, se sont débauchés, accompagnés de musique et de chants. Et même, rappelons-nous cet exemple aussi, je l'aime bien parce que ça fait beaucoup réfléchir à certains grands concerts. Le plus grand concert diabolique qui était organisé, C'est lequel? C'est Woodstock? C'est... Non. C'est un concert que Nebuchadnezzar a organisé à sa propre gloire. Je vous lis Daniel chapitre 3, verset 5. Un héros cria à haute voix: « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion et de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Donc un grand concert à la gloire de Nebuchadnezzar, donc à la gloire du diable. Derrière, bien sûr, adorer une statue, c'était l'inverse même de ce que Dieu avait dit. Un des premiers commandements, c'est « tu ne te prosterneras pas devant les statues ». Et donc le diable inspire Nebuchadnezzar à dire « fais-toi adorer, fais une statue et fais un grand concert, et quand tu joueras, quand tout le monde jouera, ils t'adoreront ». Ça fait penser un peu aussi dans l'Apocalypse, quand il est question de, enfin, ou dans Matthieu, de l'Antéchrist qui devra être adoré, qui adoreront son image. C'est pas écrit. Mais moi j'ai une petite idée, je pense que ça se fera en musique. C'est important. Bon, on en reparlera. Alors oui, bon, pour terminer, la musique vient de Dieu, c'est une grande bénédiction de l'Église, mais elle est corrompue par Satan. Donc il faut l'utiliser avec sagesse. Ne pas la craindre, ne pas dire « bon alors, puisque ça pourrait être mal, ne faisons rien », non. Il faut de la sagesse, il faut réfléchir sur la question, il faut creuser la question dans la Bible. Comme le corps est un instrument soit de bénédiction, soit d'iniquité, la Bible dit, hein, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, mais ça peut être pour l'iniquité ou pour le bien. Mais la musique, on peut bien s'en servir, et si on s'en sert bien, c'est pour le bien, ou on peut mal s'en servir, et ça sera pour le mal. Donc, conclusion, aujourd'hui nous sommes là pour réfléchir un peu à ça. Il ne faut pas nous tromper nous-mêmes sur cette question-là. Longue introduction, mais maintenant ça sera juste 2 points. Souvent les messages des pasteurs c'est 3 points, donc là il n'y en aura que 2, donc ça va. On l'a échappé belle. Mais c'était important de rappeler ça, parce que quand on a bien posé le fondement, on sait pourquoi, on va développer la suite. Alors, la musique, on commence par la partie négative. C'est la musique, instrument de malédiction, point d'interrogation. Pourquoi ça serait et comment ça serait un instrument de malédiction pour l'Église? Comment? Ben, c'est souvent un instrument de division dans les assemblées. Je vous explique pourquoi. Vous avez peut-être remarqué, si vous avez de l'expérience de la vie des églises, il y a des fois des petites tensions qui se créent au niveau de la musique. Oui, vous les vieux, vous aimez bien celui-là, mais nous, la jeunesse, on aime bien celui-là. Alors, la jeunesse pousse un peu dans une certaine direction, et puis les anciens disent « non, c'est cela qu'on va chanter ». Et donc, j'espère que ce n'est pas le cas ici, hein, mais quoi qu'il en soit, c'est fréquent, assez fréquent. Ce n'est pas toujours les jeunes et les vieux. Hein, mais il y a des petites tensions qui se créent au niveau de la musique. Ça se résout parfois dans la paix, il n'y a pas de souci, mais ça existe. Mais sachez que ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas depuis certains recueils. Ce n'est pas nouveau. Depuis les débuts de l'Église, il y a des tensions sur cette question-là. Une époque, il ne fallait chanter que les psaumes. Et donc vous retrouvez au temps de la Réforme des psautiers. Ce qu'on chantait, c'était des psaumes. Point la ligne. Et le Nouveau Testament disait, il faut chanter des psaumes. On ne chante que des psaumes. Et puis d'autres disaient, non, il faut chanter d'autres passages de la Bible. Et il y avait une petite tension. Une époque, certains disaient, on ne chante que a cappella, sans instrument de musique. Et certains, les plus loin, disaient, non, c'est pas seulement a cappella, c'est même à l'unisson. Surtout pas de voix, parce que ça, c'est des fioritures inutiles, charnelles. Voyez, sur quoi on appuie dans le temps. Certains, une époque, ont dit, il faut chanter avec sobriété, sans sentiment. Il faut que ça soit quelque chose d'intellectuel. Enfin, voyez. Et puis d'autres ont dit, non, il faut y mettre du cœur. Alors, entre le sobre et le sentimental. Et puis une époque, c'est qui crée un peu la tension, on disait, et je crois que ça, ce qu'on doit chanter, ce sont des choses extérieures à nous. Voilà, le salut est venu de Dieu, il est venu croix, c'est l'évangile, c'est la résurrection, c'est ça, tellement ce que Dieu est, ce que Dieu a. Seulement la gloire de Dieu, donc toute l'hymnologie doit être axée là-dessus. Et puis d'autres ont commencé à faire des cantiques un peu, qui intégrait l'expérience chrétienne, les difficultés chrétiennes, les épreuves, les victoires chrétiennes, nos besoins intérieurs, profonds, notre soif, notre désir pour lui, notre relation avec Dieu. Et on pourrait dire que les deux ne s'opposent pas, mais pour certains, ça crée une tension, non que des choses extérieures, et puis d'autres ont dit, oui, mais quand même, dans la Bible, il y a aussi des choses qui viennent de nous. Bon, je ne donne pas de réponse à ça. Je vous dis, il y a une tension, il y a toujours eu des tensions sur certains sujets. Et puis, le plus récent, mais ce n'était pas nouveau non plus, est-ce qu'il faut fuir tout ce qui existe qui ne serait pas fait par des chrétiens, fuir les styles existants, ou au contraire, non, il faut absolument s'imprégner et utiliser les styles existants. Alors là, pof, là ça fait des étincelles. Là. Alors les questions sont bonnes. Vous voyez, je les traite de manière sans dire c'est bien, c'est mal. Je vous donne les deux. Mais parfois ça tourne au ridicule. Il fut un temps où des moines chantaient volontairement de manière disharmonique, volontairement fausse. Alors mais pourquoi ? Il fut un temps et c'était pas partout. En fait, il disait que c'était pour éviter l'orgueil, parce que si c'est beau, on peut en tirer de l'orgueil, voyez, ah, c'était beau, les autres écoutent, ah, qu'est-ce qu'ils chantent bien. Donc pour éviter ça, ils chantaient faux. Bon. Et même, ils avaient peur d'y trouver du plaisir, parce que quand même, c'est agréable de chanter. On y a un certain plaisir. Et alors, comme c'est que pour la gloire de Dieu, si on y trouve du plaisir, c'est pas bon. Donc ils chantaient faux, comme ça. Pas d'orgueil et pas de plaisir. Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller. Ça peut aller assez loin. Donc, quand je dis instrument de division, c'est instrument en tout cas de petites tensions, voire de grosses tensions, voire parfois de vraies divisions dans les églises. C'est arrivé. Je pense aussi que la musique peut appauvrir, selon quelle musique on utilise, et surtout quel texte on utilise, peut appauvrir la vie spirituelle ou la piété chrétienne. Bon, je ne vais pas citer de recueil, je vais éviter ça, c'est à vous de réfléchir. Mais il y a une tendance contemporaine, assez généralisée, d'appauvrissement des contenus des textes. Je vais être un peu plus précis. On a vu tout à l'heure, ça existait de ces thèmes-là. Avant, c'était Christ, la croix, la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, des thèmes extérieurs à nous. Et ça, c'est de moins en moins ça. Et c'est de plus en plus notre besoin de Dieu, ce qu'on fait pour Dieu, notre combat pour Dieu, le Saint-Esprit aussi, c'est une personne de Dieu, il n'y a pas de souci, mais c'est de plus en plus mis en hymne. Les guerres spirituelles, c'est vraiment un thème qui revient de plus en plus, et les danses pour Dieu, c'est des thèmes qu'on retrouve de plus en plus et de plus en plus dans les cantiques. Alors, je parle d'une tendance, c'est pas mauvais et c'est pas bien, mais c'est une évolution qui va quand même vers un certain appauvrissement de l'hymnologie. Je dirais aussi appauvrissement des contenus. Voilà. Ne parlons pas encore musique, mais ce qui nous intéresse dans le cantique, normalement, c'est plutôt le texte. Donc on parle des contenus. Ben, les contenus, il y a de moins en moins de références bibliques à l'appui de ce qu'on dit. Il y a de moins en moins de doctrines qui sont abordées. Certains qui étudient un peu les recueils, il y a certains recueils, on se dit, ben, n'importe quelle doctrine qu'on voit dans les Écritures, on peut la trouver. Vous cherchez un thème, par exemple, ben, tout à l'heure, il y avait à cette table, est-ce qu'on a beaucoup de cantiques sur la scène ? Il n'y en a pas beaucoup. Ben, il y a plein de doctrines comme ça qui sont de moins en moins traitées et on en revient principalement toujours au même sujet que je disais tout à l'heure, le combat spirituel, les guerres spirituelles, etc., etc. Il y a de moins en moins de références, de moins en moins de doctrines abordées, et je dirais, et ça c'est intéressant, faites-y attention, de moins en moins de clarté du sens. Faites attention à ce que vous chantez. Aujourd'hui, on parle de la traçabilité des aliments. Faites attention à ce que vous mangez. D'où ça vient ? Est-ce que c'est la viande que vous mangez ? Elle a été piquée aux hormones ? Enfin, faites attention à ce que vous chantez. Parce que ce que vous chantez, c'est aussi ce qui nourrit votre esprit et votre âme. Et si vous faites attention, vous dites, mais bon, ça a l'air joli, ça a l'air poétique, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui nous touche ? Est-ce que c'est seulement la beauté d'un texte ou ce qui nous touche, c'est le sens d'un texte. Regardez Jésus, quand il enseignait, il y a des choses qui sont très imagées, il parlait de la lumière, il parlait du pain, ce sont des choses qui sont poétiquement, qui peuvent aussi être utilisées, mais ça avait toujours un sens, une signification. Faites attention, quand vous chantez, à qu'est-ce que je suis en train de chanter ? Est-ce que j'ai compris ? Qu'est-ce qui me permet de parler ? J'ai pas écrit toutes les phrases, mais quand j'ai compris une idée, ça m'est facile de l'expliquer parce que j'essaie de transmettre, avec des mots différents, toujours un sens. Quelle que soit la tournure de phrase, vous pouvez la tourner de diverses manières, mais vous transmettez un sens. Et quand les cantiques, vous les lisez et vous dites, mais c'est joli, ça a l'air poétique, le vent, les voiles, enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire au fait ? Et là, vous vous rendez compte qu'il y a des fois du sens, et des fois, il y a des morceaux de phrases, ça a rempli le cantique, et ça n'a pas de sens. Je ne peux pas comprendre, si je réfléchis, je ne peux pas comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire. Reconnaissons aussi que parfois il y a des fausses doctrines qui sont véhiculées, voilà, tendance très charismatique. Et puis après, il y a la musique en elle-même, les styles de plus en plus mondains. Quand on utilise du hard rock, moi j'écoutais du hard rock, quand j'étais jeune, non chrétien, est-ce qu'on peut utiliser du hard rock pour la musique chrétienne ? Alors on peut dire, oui, mais il n'y a pas un seul verset contre le hard rock dans la Bible. C'est vrai ! Il n'y a pas un seul verset qui dit quel rythme est biblique ou quel rythme n'est pas biblique. C'est vrai ! Mais puisqu'on se soucie de la provenance, écoutez, moi j'habite à Marseille, si je veux baigner à côté d'un égout, je ne serai pas très raisonnable. On va me dire, mais va plutôt à un endroit où il n'y a pas un égout qui se déverse. Soyons sérieux. Si on écoute du hard rock, le hard rock, faisons attention au contenu, aux paroles. Ah oui, 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 mais on enlève les paroles. Est-ce que la musique, c'est quelque chose de totalement désolidarisé des paroles ? D'abord, non. On sait très bien qu'une musique agit sur l'âme. Et sur comment elle agit sur l'âme ? Parce qu'avec des rythmes, avec des notes, avec une certaine manière de jouer, vous pouvez produire la paix, une certaine tranquillité, la joie, une certaine excitation. Si vous allez voir l'Olympique de Marseille, c'est introduit quand les joueurs rentrent par un groupe qui s'appelle Van Halen, du hard rock, et bon, Jump. Et je vous assure que depuis 20 ans, c'est toujours la même musique en entrée, et quand vous envoyez ça, tout le monde est énervé. Ça marche ! Ne croyez pas que la musique, c'est neutre. Ça marche ! Ça passe pas par notre être conscient, mais ça a un effet sur notre âme. Et le hard rock, le style musical, j'aimais ça, parce qu'à l'intérieur de moi, j'étais quelqu'un en colère, énervé, rebelle. Eh bien, cette musique, c'était ce qu'il me fallait. Il y a un certain nombre de vibrations, un certain rythme. Tout ça, ça correspondait parfaitement à ma vie intérieure, qui était de colère, de rébellion et de destruction. La musique n'est pas neutre. Pareil pour le rap. Donc, il y a certains styles de musique, on peut dire, oui, ça vient du monde. Pas de souci. C'est ni sensuel, ni agressif, ni violent. Ça a existé dans la vie de l'Église. Mais quand les styles musicaux, les contenus musicaux sont sensuels, violents, agressifs, on ne peut pas dire que Dieu peut utiliser ça. Non. Ça peut plaire à certains, mais ce n'est pas la pensée de Dieu, je ne pense pas. Alors, et puis, ce n'est pas le cas ici, mais il y a un mouvement évangélique qui place vraiment la musique au centre de tout. Vous voyez, là, vous n'allez pas à un culte, vous allez à un concert. Vous allez adorer à un concert. Et c'est vraiment quasiment des stades, avec une ambiance extraordinaire, avec des effets lumineux, avec des fumigènes, avec tout ce qu'il faut, des effets spéciaux, des sonores, vibratoires. En fait, vous vivez, c'est pareil si vous allez au cinéma, une expérience d'immersion. Vous êtes plongé dans le son et dans la lumière, et tout ça, c'est fait pour vous placer dans un certain état. Vous le savez, vous savez ce que c'est un concert. La plupart d'entre vous, j'imagine que vous êtes déjà allé à un concert. Ben, ces concerts-là, il y a tous ces effets-là qui agissent sur votre âme. Alors, il y a des trucs de DJ aussi, pour exciter tout le monde. On fait des alternances on baisse le son et puis on monte progressivement le son et on monte et on monte. Et puis il y a des trucs de reprise. Si vous connaissez, moi à mon époque, c'était il y a quelques années, quand on a Ali, 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 ça, c'est, vous, ça vous fait pas, mais je vais pas essayer. Mais normalement, vous faites Ali, 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 Ali. Non, non, ne le faites pas, surtout pas. C'est pour dire, voilà, vous avez la pression, le pauvre DJ, il est là en train de vous faire ça, c'est votre tour, vous allez le faire, vous voyez. Des trucs, des cris de guerre, des ambiances, et vous savez quoi, c'est tellement bien fait tout ça, c'est très professionnel. C'est tellement bien fait qu'à un moment donné, vous avez du plaisir à cette expérience. Pourquoi on a du plaisir à aller voir l'OM ? Parce que d'un coup, il y a 60 000 personnes qui se mettent à crier la même chose, à chanter la même bêtise, à dire la même grossièreté, ou d'autres concerts. Pourquoi on a ce plaisir-là ? Parce qu'il y a une espèce de sentiment d'unité, de communion. C'est pas la bonne unité, c'est pas la bonne communion qu'on vit dans ces moments-là. Et quand les chrétiens commencent à utiliser ces trucs-là pour l'évangile, c'est à réfléchir. Est-ce que c'est bien fondé ou pas ? Alors il y a, avec ces plaisirs et ces émotions, le problème c'est l'illusion qu'on est en train de vivre quelque chose de profond et de spirituel. Il y a une illusion de plénitude. Vous avez payé, ou pas payé d'ailleurs, enfin bon. Mais enfin, quand vous rentrez chez vous, vous sentez que vous avez vécu quelque chose de fort, d'intense. Ça vous a pris, quoi. Ça vous a créé des émotions. Vous avez peut-être tremblé. Vous avez... Et puis ce sentiment d'être tous ensemble, ça a créé, vous en avez pour votre argent. Vous avez vécu quelque chose et vous allez vous dire, Dieu était là. Je l'ai senti. Parce que vous avez senti quelque chose de fort. Mais bien sûr que vous sentez quelque chose de fort. Avec 60 000 personnes qui braillent, vous sentez quelque chose de fort, bien sûr. Mais c'est une illusion de plénitude. C'est une illusion. Le problème, c'est quand les chrétiens, après, ont une addiction à ça. Ils vont voir un concert, ils se régalent, et après, quand ils reviennent dans leur église, écoutez... Bon, ils jouent juste, hein. Tout va bien. La pianiste, la guitariste, c'est très bien. Moi, j'apprécie beaucoup, hein. Vous avez très bien joué. Mais, oh, mettez un peu plus fort, là, montez un peu. Et puis, il manque quand même le beat, quoi. Il faut du rythme. Et puis, si vous... Non, et c'est comme au cinéma. Maintenant, si vous allez au cinéma où il n'y a plus les vibrations dans le siège et les effets spéciaux, vous dites, oh, je vais trouver une salle où il y a tout ça. Parce que ça vous manque, après. Quand vous avez pris goût à ces effets spéciaux, quand vous revenez au simple, ça ne vous fait plus rien. Donc, il faut du toujours plus. C'est comme le piment. Quand vous avez pris l'habitude de manger avec peu de sel et pas de piment, tout est bon. Et puis après, vous commencez à manger du piment. Eh bien, sans piment, vous avez l'impression que ça n'a plus de goût. Mais toutes ces choses-là, quand vous avez goûté à ça, vous revenez dans votre assemblée, dans votre groupe et... il faut la même chose, hein, chez nous, hein. On va aller plus souvent à ce genre de choses parce qu'on sent Dieu. Est-ce que vous avez senti Dieu ce matin ? Est-ce que vous sentez Dieu maintenant ? Vous dites, oula, il est un peu excité, lui. Non, c'est plutôt qu'il se calme. Je connaissais une jeune fille à Dunkerque qui commençait sa journée. Elle disait, je ne peux pas commencer ma journée, je ne peux pas commencer mon ménage sans m'écouter. Je vous bip. Le titre d'un groupe, je me mets à genoux devant ma chaîne Lifi et je m'écoute ça. Et après, j'ai la pêche. Et je peux faire mon ménage. Oui, mais les gens du monde sont comme ça. S'ils n'ont pas leur musique qui va les énerver un peu le matin après le café, il manque quelque chose. Et ils n'ont pas la pêche. Est-ce que c'est ça l'hymnologie chrétienne, à votre avis ? Quelque chose qui va vous mettre la pêche en vous énervant, je crois pas. Alors bon, je passe là-dessus, voilà. Quoi qu'il en soit, ces grands concerts, on a l'illusion, enfin on se dit que ben, Dieu bénit, regarde tout ce monde qu'il y a, nous on est à peine 20, 25, on a du mal à faire venir des gens, eux, pouf, c'est tellement pro, c'est tellement réussi qu'ils arrivent à inviter leurs copains. Vous, si vous voulez inviter vos copains, vous dites, oh, ils vont trouver ça un peu vieillot. Alors que si on les invite à ce concert-là, ils vont venir, c'est pro, c'est aussi bien que ce qu'ils écoutent, ils vont se régaler. On n'a pas de honte à inviter à un concert comme ça. On se dit, il y a du monde, donc il y aura des âmes sauvées. Et puis ils font de l'appel, et puis il y a même des témoignages, et puis c'est des paroles évangéliques, et puis il y a des bonnes choses là-dedans. Et le Seigneur utilise aussi dans sa grâce ces choses-là. Mais est-ce qu'on prêche la repentance pour le salut des âmes? Est-ce que c'est un détail? Qu'est-ce que les gens ont goûté quand ils se sont convertis en levant la main, parce que tout le monde levait la main après des effets spéciaux? Ils ont dit, oh, oui, je ressens quelque chose, je le veux moi aussi, je le veux. Je veux d'un Dieu qui me bénit, je veux d'un Dieu qui m'aime, je veux d'un Dieu qui sera toujours avec moi, d'un Dieu qui me guérira, je veux d'un Dieu qui m'enrichira. Ah oui, ben tout le monde se lève, tout le monde lève la main. Et un Dieu saint qui condamne le péché et le pécheur, si on ne se repent pas, est-ce qu'ils l'ont entendu, ce message-là? Est-ce que ce n'est pas ça le message du salut? Est-ce que ce n'est pas Christ qui est mort pour nos péchés, le message du salut? Alors tout n'est pas mauvais, il y a parfois, et j'espère souvent, beaucoup de bonnes choses. 1 Thessaloniciens 5 dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon, bien sûr. Mais quel est le risque? Le risque, c'est de bâtir avec des mauvais matériaux. 2 Corinthiens dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Est-ce qu'on a besoin d'effets spéciaux pour que les forteresses dans le cœur de l'homme s'effondrent? Est-ce que Dieu ne nous convainc pas avec un murmure doux et léger? Est-ce qu'il ne nous convainc pas de pécher sans faire de tremblement de terre? Est-ce que ce n'est pas comme une rosée qu'il abreuve la terre entière? 1 Corinthiens 3 dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Je m'en tiens à ça. Le risque de bâtir avec des mauvais matériaux, et puis le risque au final qu'on soit en train de ressembler au monde, de se conformer au monde. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien de se conformer au monde? Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien souvent, nous nous trouvons dans des situations de faiblesse, de solitude et de manque de moyens pour faire l'œuvre de Dieu, pour évangéliser. On n'a pas les moyens. Vous avez les moyens de louer un stade, d'avoir... Vous avez ça dans le budget? Vous n'avez pas les moyens? Ah, ouais. Oh, je ne suis pas dans la bonne église, je croyais que... Est-ce qu'on manque de moyens quand on est une petite douzaine de chrétiens dans une église pour évangéliser? Est-ce qu'on manque de moyens? Alléluia! Vous ne manquez pas, nous ne manquons pas de moyens en étant même trois. Et même seuls. Parce que nous avons la parole de Dieu, parce que nous avons l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, parce que nous avons le Saint-Esprit, et c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement, et c'est lui qui révèle Jésus-Christ. Ce n'est pas les effets de concert lumineux, vibratoires, de DJ. Ce n'est pas un effet de professionnel. Nous n'avons pas besoin de professionnels. Si on chante bien, tant mieux. Si on chante juste, c'est déjà pas mal. Mais on n'a pas besoin d'être des chanteurs pour... On n'a pas besoin d'être des professionnels pour faire ce que Dieu attend de nous. On a juste besoin d'obéir. Ce qui est puissant, ce sont des chrétiens qui font confiance au Seigneur, à ses capacités. Paul disait, c'est pas de notre capacité dont Dieu a besoin. Au contraire. Alors, dans notre faiblesse, nous pouvons aller et Dieu peut faire de grandes choses. Alors, je passe maintenant à la musique instrument de bénédiction. Je regarde l'heure. À quelle heure je suis censé terminer? Bon, lui, il dit. Vous, mais... Non, il ne faut pas faire... Allez, je ne serai pas très long, parce que là, je suis bien allé dans le thème de la malédiction, mais j'aimerais vous laisser surtout avec la bénédiction. Quelle est la première bénédiction du fait de louer le Seigneur? Ben, je suis content que Jean-Denis nous ait lu ces versets tout à l'heure. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est des ordres à chaque fois. Bénissez, louez, célébrez. Il n'a pas dit essayez de, enfin, quand vous vous sentirez de, quand vous serez assez nombreux pour, quand vous aurez une bonne musique en vue de, quand. Il n'a pas parlé de tout ça, il a donné un ordre, il a dit célébrez. Ben, la première bénédiction, c'est tout simplement d'obéir au Seigneur. Louer, chanter, célébrer le Seigneur, c'est une bénédiction. Vous savez, étant, je vous ai parlé tout à l'heure de mon passé rebelle, hard rock, etc., etc., la première chose que j'ai aimée par-dessus tout à ma conversion, c'est obéir. J'aime maintenant obéir. Je dis j'aime, c'est pas toujours facile. Mais j'aime ça. J'aime ça parce que j'obéis à un Dieu juste, parfait, sage, qui a toujours raison. Je peux lui obéir à lui. Il peut me demander des choses, je dis mais c'est pas possible. Si c'est lui qui le dit, eh ben c'est, vous savez que c'est une bénédiction ça. Simplement d'obéir au Seigneur quand il nous dit chanter. Je vous lis juste ce psaume 47, verset 7. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. Tout à l'heure, Jean-Denis relevait qu'il y avait deux fois le même mot. Là, combien de fois il y a le même mot ? Chantez, 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 chantez. On a compris. Quand même, le Seigneur est clair, il est explicite, c'est une bénédiction de lui obéir. Bénédiction aussi, parce que la musique, les cantiques, édifient l'Église, normalement, servent à l'édification de l'Église. Quand ils sont ce que Dieu a voulu, ils édifient l'Église, c'est-à-dire ils participent à sa croissance et à son approfondissement, à sa stabilité. L'édification, c'est tout ça. C'est pas simplement solide, c'est que ça grandit. Eh bien, la musique, les cantiques contribuent. C'est pas un moment où on se dit, bon, il faut faire la partie chant, et puis après on passe au message, c'est le message qui édifie. Non, la partie chant, normalement, sert à l'édification de l'Église. Il y a deux textes dans le Nouveau Testament qui parlent des cantiques, qui sont très clairs. On pourrait chacun les approfondir, mais déjà, reprenons-les. Éphésiens 5, 19... qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » À quoi servent les cantiques dans ce verset ? Des fois, je pose la question pour que ça soit répondu. Cette fois-ci, c'est pour être répondu. Juste pour qu'il y ait un petit échange. Dans ce verset-là, à quoi servent les cantiques ? Et là, je ne continue pas tant que je n'ai pas de réponse. Alors, n'ayez pas peur, c'est écrit. Hein ? Alors, oui, ils rendent grâce à Dieu, oui. Oui, alors justement, j'aimerais qu'on soit comme en français, qu'on tire précisément notre idée de ce qui est écrit là en disant « ça dit ça, ça veut dire ça ». Le sens, rappelez-vous, le sens. Qu'est-ce qui est écrit là ? Gna 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 gna, par des psaumes ou des cantiques. C'est quoi le gna 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 ? S'entretenir, voilà. Là, on a le mot « s'entretenir ». L'entretien. Alors l'entretien, c'est que si on fait pas ce qu'il faut, un appartement, il se dégrade. Si on fait pas ce qu'il faut, la vie spirituelle, elle se dégrade. Si on n'entretient pas notre vie spirituelle, elle décline, elle se dégrade. S'entretenir les uns les autres, c'est s'aider les uns les autres. On s'exhorte, on s'encourage par les cantiques. On s'entretient. Mais revenons, j'aime bien voir le début d'un texte. Quel était le but ? C'est pour ça que on ne peut pas dire simplement entretenez-vous. Entretenez-vous, c'est la conclusion. Mais juste avant entretenez-vous, ça dit quoi ? C'est plus facile quand on a la Bible devant les yeux, je reconnais. Hein. Mais Tant pis, ceux qui ne l'ont pas ne peuvent pas répondre. Ils sont privés. Privés de dessert d'ailleurs, tout à l'heure. Alors, qui veut du dessert? Qui me dira? Allez, je vais vous le dire. J'arrête l'interaction monologue. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Entretenez-vous. L'entretien, c'est entretenir notre plénitude de l'esprit. On en parlera tout à l'heure. On s'entretient dans la plénitude. On ne crée pas la plénitude, on entretient cette plénitude. Mais cette plénitude, en elle-même, elle est la réponse, puisque c'est « soyez au contraire ». C'est l'opposé et c'est la réponse du danger qui nous guette tous. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. C'est un exemple. La débauche, l'ivresse, c'est un exemple. Chanter des cantiques n'empêche pas de voir un verre de vin. C'est pas ça la question. Mais en revanche, vivre rempli de l'esprit et entretenir cette plénitude, être continuellement rempli par l'esprit et l'entretenir grâce aux cantiques, c'est le meilleur moyen de lutter contre la tentation, notre nature pécheresse et notre inclinaison à la chute. Ah, j'ai une vie chrétienne chaotique avec des hauts et des bas. Il faut rester en haut. Et il faut garder cette plénitude. Cette plénitude, c'est le seul moyen de vivre ici-bas. Hein. Sinon, vous allez tomber. Comme une montgolfière, le seul moyen que vous avez de rester dans le ciel, c'est qu'il y ait toujours de l'air chaud. Si vous arrêtez de souffler de l'air chaud, ce n'est pas un ballon fermé, c'est un ballon qui ne se maintient que grâce à la chaleur tout le temps insufflée. La vie chrétienne, c'est tout le temps soyez rempli de l'esprit. Et pour entretenir ça, les cantiques aident. Vous voyez l'importance des cantiques ? Ça nous aide dans notre vie, pas simplement le dimanche matin pour qu'on chante bien ensemble. Dans notre vie chrétienne, dans notre vie quotidienne, dans notre semaine, les cantiques nous aident. Si on a des cantiques comme Dieu le veut, ils nous aident à ne pas tomber dans le péché. C'est pas une bénédiction, ça? Et ça, c'est ce que dit Éphésiens, donc éviter la débauche, s'entretenir, c'est se maintenir les uns les autres, et puis, ça termine en disant « rendez grâce », c'est ce que nous disait tout à l'heure Jean-Paul, « rendez grâce continuellement ». On ne peut pas toute la journée dire des merci Seigneur, Alléluia, mais on peut toute la journée entretenir un cantique dans son cœur d'action de grâce. Dieu ne nous demande pas toute la journée de dire Amen, Alléluia, je suis en train de conduire ma voiture et j'ai pas eu d'accident, Amen, Alléluia, je viens de prendre le rond-point et je m'en suis bien tiré. C'est... Oui, on rendait grâce à Dieu, mais quand vous avez un cantique dans le cœur, vous chantez, vous pouvez chanter, faire tout votre trajet entre Marseille et Arles et chanter tout le long. Et vous restez continuellement en action de grâce. Le cantique fait ça. Si c'est que votre cerveau, ça ne le fait pas. Si c'est une mélodie, vous êtes déjà rendu compte. Et là, je reviens dans le monde. Vous entendez une mélodie, paf, trois notes de musique. Et vous n'arrivez pas à vous l'enlever de la tête pendant toute la journée. Ça marche avec les pubs, ça marche avec les musiques du monde. Vous n'arrivez pas à vous... Mais comment je peux la chasser? Alors, si c'est une bonne musique, c'est une bonne chose. Parce que si c'est un bon cantique, ça va vous aider à rester dans la présence de Dieu. Deuxième verset, que la parole, Colossiens 3:16, que la parole de Christ habite parmi vous dans toute sa richesse, dans toute sa plénitude. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Là, le but, je crois que le but, c'est que la parole de Christ habite parmi nous abondamment. C'est ça que ça dit. Que la parole de Christ habite, on le sait que quand on est habité par la parole de Dieu, on est rempli. On a la pensée de Dieu, on agit comme Dieu, on peut réagir enfin comme Dieu. Parce que la parole de Dieu habite en nous, vit en nous, nous remplit abondamment. Pas juste, ah, j'ai ce verset magique que je peux toujours saisir en cas d'épreuve. Le Seigneur utilise une quantité de versets, de pensées. Mais la deuxième idée, c'est instruisez-vous et exhortez-vous par des cantiques. Vous savez que ces deux mots, instruisez-vous et exhortez-vous, c'est les mots qu'on utilise pour la prédication et l'enseignement. C'est Didascalo et l'autre, que je ne dise pas de bêtises, c'est Téléo, quelque chose comme ça. Enfin, Nous, Téléo. Voilà, c'est ça c'est important, vous en souviendrez. Hein. Nouteteo, pas Nutella, Nouteteo, c'est, vous savez quoi ? Parce que l'instruction, on veut bien didascalo, didactique, on comprend. L'enseignement, on va nous enseigner dans les cantiques. Mais Nouteteo, c'est l'exhortation, c'est l'avertissement. Mais on dit, mais non, un cantique, c'est fait pour parler de l'amour de Dieu et de la joie qu'il y a en Dieu, des bénédictions qu'il y a en Dieu. Eh bien, Dieu dit que c'est aussi un instrument d'avertissement. Vous pouvez avoir des chants, moi je me rappelle dans ma vie chrétienne, waouh, il y avait une strophe qui disait « Sors du rang des lâches et t'élance au front ». Je sais que chaque fois qu'on chantait ça, ça secouait l'église. Hein. Il y en a plein des cantiques comme ça, vigoureux, mais c'est pas une mauvaise chose d'être secoué parfois quand on s'endort, non ? On en a besoin aussi, et les cantiques peuvent servir à ça, à nous secouer, à nous avertir, à nous faire trembler un peu. Alors oui, ça, c'est un enseignement, oui, ça nous encourage. Alors là, petit détail, c'est pas la musique qui nous édifie, c'est les paroles qui nous édifient. La musique a un effet. La musique a un effet sur l'âme, un très bon effet sur l'âme. Si c'est une bonne musique, ça peut adoucir. Rappelez-vous l'exemple de Saül et David. David joue de la harpe et enfin, Saül peut respirer. Le problème avec ça, c'est que quelques minutes après, Saül prend une lance et cherche à transpercer David. La musique a un effet éphémère. Alors si ça vous fait du bien d'écouter le Messie de Handel, bon là il y a du contenu, c'est pas pareil, mais ou des choses très jolies, très douces, c'est bien. Écoutez de la bonne musique, douce, agréable, c'est bien. Mais ne comptez pas dessus pour vous garder dans la présence de Dieu toute la journée. C'est juste une petite pommade, c'est très superficiel et très éphémère. Ça ne suffit pas. C'est comme la caféine. Moi j'ai besoin, je reconnais, de mon mug de café le matin. Tant que je ne l'ai pas bu, je lis la Bible, mais pouf, il y a comme un démarrage avec mon café. Mais ça ne suffit pas, vous ne teniez pas une journée avec du café, non ? Il faut du pain, il faut des glucides, il faut quelque chose qui vous tienne la journée. Alors la musique, si ça a un petit effet détonateur, pourquoi pas ? Même les cantiques, des musiques, on a l'impression que ça nous approche de Dieu, mais ce n'est pas ça qui vous fait rentrer dans la présence de Dieu. Ce qui nous rappelle ce que Dieu a fait, c'est ce que Dieu a dit. C'est quand ça nous révèle l'œuvre de Christ, la croix, ce qu'il est. C'est pas la musique. Donc ne nous trompons pas. Aujourd'hui, je parle de musique, je parle plus de cantique en fait. Le but, c'est le cantique. Et vous savez quoi ? Un cantique, c'est une prédication, ça doit faire plaisir au prédicateur, qu'on peut apprendre par cœur. J'avais une amie japonaise quand je me suis converti à Paris. J'étais tout nouveau converti. Et alors, tout de suite, on a fait plein de choses, de l'évangélisation, on priait, on faisait des voyages. Et on est monté dans une voiture pour aller en Belgique. Et elle avait pris un recueil des ailes de la foi. Et elle a dit, oh, alors, on va chanter des cantiques. Très bien. Puis, passer 2 heures, 3 heures ensemble, 4 chrétiens, on chante des cantiques. Ben, le seul cantique que j'ai appris par cœur de ma vie, même ceux que j'ai écrits, je ne les connais pas par cœur. Je suis obligé de les lire. C'est comme ça, mon cerveau. Mais elle nous a appris un cantique par cœur ce jour-là, qui s'appelle « Trop souvent, je murmure ». Je peux encore, je ne connais pas les dates d'anniversaire de mes proches. Vous voyez, ça rentre par une oreille, c'est effroyable. J'ai honte, hein. J'ai honte, excusez-moi, j'aurais pas dû oublier. J'ai du mal à mémoriser les choses, mais ce cantique-là, je crois que c'est le 413, à vérifier. Trop souvent je murmure, quand ma route est obscure, ô ma foi faiblira, ô ma foi faiblira. Et pourtant, la promesse est là pour ma faiblesse, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Je peux vous faire tout le cantique comme ça. Vous pouvez mémoriser des choses qui vous serviront toute votre vie. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je crois que je vais avoir pitié. Plein de choses très belles. Quand même, je vous lis juste un cantique. Psaume 45, verset 1. C'est un cantique qui a été écrit, un chant d'amour. C'est un chant d'amour à Jésus-Christ. Au chef des chantres sur les lys des fils de Corée, chant d'amour. des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Un cantique d'amour, c'est pas de dire 10 fois que je t'aime, que je t'aime. Qu'est-ce que c'est un bon chant d'amour? En fait, c'est pas non plus ce que je fais pour toi, c'est un chant qui glorifie l'objet aimé. Le cantique d'amour doit pas dire je t'aime alors je m'approche de toi, je t'aime alors je vais chanter pour toi, je t'aime alors toute l'église se lève pour toi. C'est un chant d'amour ça? Qu'est-ce que tu as dit sur l'objet aimé? Rien. Ça, tu pourrais remplacer, mettre n'importe qui à la place, c'est pareil. Mais quand vous faites un chant d'amour sur la personne, vous montrez qu'elle est votre centre d'intérêt, elle est votre centre d'affection, elle est vraiment l'être aimé. Des fois, on confond l'amour avec ce qu'on est en train de vivre pour la personne. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est vraiment la personne. En conclusion, la musique doit rendre à Dieu ce qui lui est dû, sa gloire en Christ. J'avais d'autres choses à vous partager, mais je pense que j'ai trop développé le premier point. Ce qui est sûr, vous lirez chez vous un cantique que Dieu lui-même a écrit, que Dieu lui-même a inspiré à la gloire de son Fils et à la gloire de la croix. Lisez le psaume 22. Rappelez-vous que c'est Dieu qui a écrit ce cantique. Rappelez-vous que le Fils l'a interprété à la croix et que c'est ce genre de cantique qu'on devrait chanter parmi nous.